c'est un défi. C'est vrai que c'est un défi. Puis c'est un défi que je pense que si tu ne l'as pas fait, je pense que si tu n'as pas travaillé en milieu minoritaire, tu ne comprends pas ces défis-là de la même façon. Les combats d'une minorité aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris ici. Tu sais, on ne le voit pas le reste du Canada quand on est au Québec. Pas tant que ça. On n'est pas conscient de ça. Et je dis toujours à tout le monde, quand je retourne à la maison, tout le monde devrait sortir. Tout le monde devrait partir pendant un an. Moi, je regarde plus le Québec comme je le regardais avant. T'sais. La distance, ça fait ça. On change notre regard. On apprend que oui, il y a des choses meilleures ailleurs, puis il y a des choses meilleures là, puis tout n'est pas parfait. Mais on apprend à mieux se connaître, puis à mieux se comparer aussi. Puis le travail me permet ça tout le temps. Parce que je travaille avec des gens du Québec, puis je travaille avec des gens ici. Puis je comprends ces batailles-là maintenant. Mieux, certainement.
Bienvenue au 15e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Ça a fait drôle d'interviewer mon invitée d'aujourd'hui parce que d'habitude, c'est elle l'animatrice et moi l'invitée. Marie Villeneuve, 43 ans, est animatrice de l'émission du matin à la radio francophone de Vancouver. D'habitude, on parle ensemble environnement et alimentation, mais aujourd'hui, on parle de la quarantaine. Il y a presque 15 ans, Marie a quitté son Saguenay natal et sa carrière dans le milieu culturel québécois pour suivre le grand amour. Elle s'est installée sur la côte ouest avec sa conjointe et les deux jeunes enfants de cette dernière. Dans l'entrevue, on parle de son enfance en région et de ses premiers chocs culturels, de sa transition de carrière au moment des Jeux olympiques de Vancouver, de son adaptation à la vie de famille avec des enfants qui sont peu à peu devenus les siens, et des remises en question de la quarantaine alors qu'on est définitivement devenu adulte. Merci de partager ce moment avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir Marie Villeneuve aujourd'hui, qui est habituée d'être de l'autre côté du micro comme animatrice ici à Radio-Canada Vancouver. Bonjour Marie.
Bonjour Brigitte.
Quel âge as-tu? Je vérifie que tu es éligible.
J'ai 43 ans. J'ai 43 ans, oui.
Bien sûr. Merveilleux.
Ouais.
Alors, parfait. Je te garde sur l'émission aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on commence en parlant de ton quotidien. Tu te lèves pas mal de bonne heure. Dis-moi un peu de quoi ça a l'air la vie au jour le jour de Marie Villeneuve.
Ben, écoute, effectivement, je me lève tôt, vers 3h45 à peu près, avec un snooze. Je me permets un snooze de 10 minutes. Donc, 4 heures, généralement, je suis debout, là. Et je passe la porte exactement à 4h25. Donc, c'est pas long, tu sais. Je passe pas beaucoup de temps sur mes cheveux ni mon maquillage, mais je fais de la radio, alors c'est parfait. Donc, c'est ça, émission du matin depuis maintenant. Je pense que ça va faire 10 ans bientôt. Je pense que je fais ça. Donc, j'anime de 6h à 9h. Puis après, ben, tu sais, on prépare l'émission du lendemain, bien sûr. Donc, j'ai la chance aussi de faire un travail qui me permet d'être un peu en mode hybride, là, c'est-à-dire d'avoir aussi ma vie de l'après-midi puis ma vie du matin. En début d'après-midi, généralement, je commence à faire autre chose. Puis, bref, j'ai du temps pour moi. Et ça, je pense qu'on apprécie ça de plus en plus dans la vie. C'est un horaire que je trouve dur physiquement, puis je te cacherai pas qu'à la longue, là, je commence à me demander, tu sais, combien de temps encore je vais faire ça. Puis ça use aussi, là, on le voit bien avec le temps, mais en même temps, c'est un horaire qui permet une vie. Puis ça, ben, la COVID nous a peut-être appris ça aussi, là, tu sais, c'est important d'avoir des moments pour soi, c'est important de prendre du temps, c'est important d'avoir une certaine liberté dans la journée. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça. Je me couche tôt, évidemment. Le vendredi soir, je suis très, très plate. Je suis vraiment une personne vraiment ennuyante. Je m'endors devant tout ce qu'on essaie de regarder à la maison. Sortir un vendredi soir, tu sais, c'est une corvée. Donc, ouais, je suis souvent fatiguée. Et des fois, je suis un peu tannée de dire « Hey, que je suis fatiguée! » C'est ça.
Mais j'aime ça. À quelle heure tu te couches?
Ben, c'est ça le problème. Je suis plutôt une fille de nuit, donc je me couche trop tard. Je me couche en général vers 9h30. Je devrais être couchée vers 9h moins quart, 9h. J'essaie cette année, d'ailleurs, c'est une résolution, j'essaie de me coucher plus tôt. C'est difficile, mais je compte bien y arriver. Là. Jusqu'ici, là, depuis que j'ai repris, là, ça va plutôt bien. J'essaie de tenir le rythme comme ça. Ouais.
J'imagine que si tu vivais toute seule, ce serait plus facile, mais c'est pas le cas.
Non, ben on est toutes les deux en fait sur le même horaire parce que ma conjointe travaille très très tôt le matin aussi. Il fait de très très longues journées, je sais pas comment elle fait. Donc moi je me lève, on se lève ensemble et puis j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui pour vrai me fait un café tous les matins à 4h15. Ça, wow. C'est quand même, c'est quelque chose, ça. Ouais, ça aide. Ça aide aussi. Bon, maintenant, les enfants sont plus à la maison. Ça aide aussi parce que il y a moins de vie. On est toutes seules, toutes les deux. Ben, avec le chien, mais ça, c'est pas compliqué à coucher. Mais voilà. Alors, c'est pas si mal. Ça change une vie de famille, c'est sûr. Pendant des années, ça a été le cas. T'sais, les enfants sont partis maintenant depuis 2-3 ans. Puis là, on est toutes les deux, puis c'est sûr que c'est beaucoup plus tranquille, mais quand ils sont ici, par exemple, l'été, ben là, oui, on se couche plus tard, là, oui, tu sais, ça complique, ben complique, je veux pas dire ça, parce qu'évidemment, je suis contente de les voir, mais ça change un peu la vie, c'est ça que je veux dire. Toute petite modification de cet horaire-là, là, ça peut prendre des, tu sais, se coucher un peu tard, un soir, ça bouleverse une semaine au complet, tu sais, fait que ça devient un peu, c'est ça qui devient lassant, à la longue, en fait.
C'est comme du jet lag.
C'est un peu comme du jet lag, oui. On sent, effectivement, on sent un peu comme ça. Ce qui est parfait, tu vois, cet été, j'ai passé 5 semaines au Québec. Donc, il n'y a comme pas de différence de temps dans mon horaire. Tu sais, je suis comme restée à l'heure du Québec, c'est-à-dire que dans la voiture, c'est Sirius qui joue, donc j'ai les images. Tu sais, après mon émission du matin, je continue sur Montréal, puis je suis les émissions du soir, puis je fais la même chose sur la télé. Fait que j'ai comme un horaire qui marche à l'horaire du Québec. Puis je me couche comme à la même heure aussi. C'est un peu particulier, mais j'ai pas vu de changement dans mon horaire entre l'été que j'ai passé au Québec puis mon horaire ici. Parce que finalement, tu sais, je me levais à 7h30, si je me lève à 4h, tu sais, c'est pas très différent au final. Donc ça... Mais oui, sinon, pour bien des gens, ça peut paraître comme ça, comme étant un décalage. J'étais un peu décalé de tout le monde de toute façon, parce que, tu sais, bon... évidemment, le soir, la semaine, je fais pas les mêmes choses que tout le monde. Puis évidemment... Mais en même temps, c'est un grand plaisir, tu sais, se lever à cette heure-là, de voir une ville se réveiller. Moi, j'ai découvert ça, tu sais, le bonheur de voir la ville se réveiller, mais les gens qui marchent, tu sais, quand t'es dans ta voiture à 4h30, là, tu te demandes tout le temps, est-ce qu'ils vont se coucher, ce monde-là, ou ils vont travailler? Est-ce qu'ils arrivent dans un gros party? c'est une vie particulière, puis c'est une vie au travail particulière aussi. Tu sais, t'es plus proche de tes collègues. C'est une famille, tu passes beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Il y a très peu de monde qui te voit comme ça dans la vie, là, tu sais. Fait que les équipes du matin, c'est souvent des petites familles très, très tissées, serrées. Puis j'ai la chance d'avoir ça ici. Fait que ça me plaît. Tout ça me plaît bien, ouais.
Wow! Donc, on dit tu vis jusqu'à un certain point, comme sur l'horaire du Québec. Mais bon, on est toutes les deux à Vancouver. Ouais. Donc, tu viens du Québec. Parle-moi oui. un peu, reculons. Parle-moi de tes origines, de tes racines, d'où ouais. viens-tu?
Je suis une petite fille de Chicoutimi, née le 25 mai 79, l'autre côté de la rue, littéralement, parce que mes parents habitent tout près de l'hôpital de Chicoutimi. Vraiment, c'est l'hôpital de la maison chez moi, c'est quoi, 20 secondes à pied, ou à peu près. Alors, je suis vraiment née l'autre côté de la rue. Mes parents sont toujours au Saguenay. Ma famille, dans son entièreté, est toujours au Saguenay. J'ai grandi au Saguenay. Mes parents habitent toujours la maison de mon enfance. Donc, c'est toujours ça. T'sais. Mes racines sont très ancrées là-bas. C'est pour ça que j'y retourne beaucoup aussi. J'ai quitté la région tard, tu sais. Donc, j'ai vraiment eu une enfance tout à fait saguenéenne avec... j'ai pas de frère, pas de sœur. J'ai été une petite enfant unique dont on s'est très, très bien occupé, beaucoup occupé. Puis, c'est ça, j'ai fait tout mon parcours. Ben, en fait, je dirais que 70% de mon parcours scolaire, je l'ai fait dans la région aussi. Donc, c'est ça, je suis un vrai bleuet, avec un réel attachement pour la région encore. Là. Ça nous sculpte, ça, d'où on vient, tu sais, je pense. C'est venir de la région, c'est pas comme venir de la ville. Il y a quelque chose de différent dans le contact avec les autres aussi, je pense. Là. Alors, ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui.
Parle-moi un peu plus, qu'est-ce que c'est la spécificité d'être quelqu'un du Saguenay?
Il y a une proximité avec les gens.
Et de Chicoutimi, pas de Jonquière.
De Chicoutimi, ah non, c'est important ça. De Chicoutimi, pas de Jonquière, effectivement. Mais maintenant, tout s'appelle Saguenay, là. Mais non, de Chicoutimi, ben, je pense que oui, il y a une question de proximité. Proximité avec les gens, proximité avec les lieux aussi. Tu sais, c'est plus petit. On n'a pas les mêmes notions de temps de déplacement, de se voir, c'est plutôt facile, tu sais. Donc, on a beaucoup vu ma famille. J'ai une famille qui va bien. On est très près les uns des autres, alors on se voit souvent. L'école était proche, tu sais, tout ça, c'est plus facile. Même pour... j'habitais à côté de l'université. Donc, tu sais, il y a une simplicité qui est peut-être plus incarnée, je dirais, dans une région comme celle-là. Pas beaucoup de diversité, ça c'est évident. Si tu parles en anglais à Chicoutimi encore aujourd'hui, tu fais partie d'une très très petite proportion des gens, très blancs, très très blancs. Là, c'est en train de changer, je pense, de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers, parce qu'il y a beaucoup aussi d'étudiants à l'université, maintenant à l'UQAC, mais très blanc. Les chocs culturels ont été longs pour moi. C'est-à-dire, évidemment, je suis sortie, évidemment, j'ai voyagé. J'ai des parents qui avaient les moyens, justement, qu'on voyage. Alors j'ai vu du monde, là, beaucoup. Ça a fait de moi qui je suis aussi, ça. Mais il n'y avait pas beaucoup de diversité. Puis il y en a de plus en plus, mais c'est encore petit. C'est ça. Donc, oui, c'est vrai que les chocs culturels ont été longs. Je me rappelle de mon premier voyage, pas mon premier voyage, mais un voyage en Haïti. J'étais petite. Le choc que ça a été de voir des enfants noirs. J'en avais déjà vu, évidemment, mais d'être toi la minorité, ça m'arrivait jamais chez nous. T'sais. Ça peut arriver dans à un enfant blanc à Montréal, dans une classe, puis d'être avec plein d'enfants qui viennent d'ailleurs ou qui ont des parents d'une autre origine, tu sais. Mais moi, c'était pas mon cas du tout, là. C'est fait que dès qu'on nous sortait de ça, on était un peu genre « OK, qu'est-ce que c'est? » Tu sais. Fait que ça aussi, c'est particulier à la région, je pense. Vraiment. Mais, ouais.
C'est drôle. Il n'y a pas beaucoup de gens que je connais qui ont voyagé à Haïti quand ils étaient petits. Est-ce que ça faisait partie du travail de tes parents ou c'était des voyageurs intrépides?
Oui, mes parents sont de grands voyageurs, ont beaucoup, beaucoup voyagé. M'amenaient pas partout, mais m'ont amené en Haïti. Mon oncle était coopérant pour l'ACDI. Donc, il a travaillé là pendant longtemps, un an ou deux certainement. Donc, on est allé le visiter comme ça, chez lui, à Port-au-Prince. Et puis, on a fait un petit tour, là, tu sais, Cap-Haïtien, là, on s'est promené. Donc, j'ai des souvenirs très, très marquants. C'est vraiment un voyage qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, ça. Et puis, c'était une leçon aussi pour le reste de ma vie, là, tu sais, de pas hésiter à amener ses enfants ailleurs, de pas... même si le début était un gros choc, je pense que j'ai pas parlé pendant une semaine, là. On était là 3 semaines. La première semaine, j'ai pas dit un mot, je savais pas quoi faire. Puis après... De voir des enfants dans la misère aussi, de voir des enfants qui te demandent de l'argent, de voir des enfants qui sont dans le besoin, de puis en même temps qui sont absolument fantastiques, drôles, brillants. Je comprenais pas, tu sais, comment ça se fait que ces gens-là étaient dans ça. Pourquoi ils méritent ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ils n'ont pas à manger? Pourquoi moi oui? Pourquoi... Puis c'est ça, fait que ça... Non, j'en parle souvent de ce voyage-là. C'est vraiment quelqu'un qui quelque chose qui est très là, qui est resté très, très près de moi. Puis c'est ça, c'est pour ça que je dis aux gens, oui, voyager avec les enfants, il faut leur montrer ailleurs. T'sais, il faut... Ben, le voyage est bon en général, là, pour tout le monde, je pense, mais plus c'est petit, plus on s'en souvient aussi, tu sais, à cet âge-là, mieux, je pense, à quelque part. Qu'on se souvient des chocs. J'ai eu cette chance-là, vraiment.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Parce que là, on est quand même à 4500 kilomètres de Chicoutimi.
Ouais.
On va revenir dans un moment sur la trajectoire, tu sais, de A à B. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mais je me demande, qu'est-ce qui reste dans ta vie d'aujourd'hui que tu as l'impression de pouvoir tracer clairement jusqu'à cette enfance-là?
Ça,
en région du Québec?
Ma facilité d'entrer en contact avec le monde. Ça, je suis convaincue que ça vient de ça. Mon côté, je ne sais pas si je peux dire familier,
convivial, peut-être.
Convivial, ma convivialité, oui, certainement, mais ma facilité d'entrer en contact avec les gens, de commencer une discussion, de parler de tout et de rien, puis d'être curieuse des gens autour de moi, ma curiosité envers les gens, ça vient certainement du Saguenay aussi, parce qu'on est plus enclin à se parler, je pense, entrer en contact, on le fait plus facilement, donc on est peut-être plus curieux des autres, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'ai cette impression-là parfois. Ce qui me reste, c'est certainement l'amour des gens autour de moi, ma famille. Ça c'est clair. Mon amour d'être avec les gens que j'aime, là. D'être prêt avec ces gens-là, ça reste aussi, certainement. Mon contact avec la nature aussi vient de là. Tu sais, le Saguenay, c'est un bel endroit pour être dehors. Puis mon contact avec l'eau. J'ai grandi au bord de l'eau et j'ai toujours pensé que je ne pourrais pas vivre dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Donc, c'est tellement... j'ai grandi au bord d'un lac, tu sais. On a eu un chalet. On a encore. C'est l'endroit que je préfère au monde, le chalet. Mon chalet au lac Kenegami. Donc, ça, j'y tiens particulièrement. Puis ce contact-là avec l'eau, avec la nature, c'est quelque chose que je garde certainement. Facilement. C'est essentiel, même.
Et pourtant, te voilà donc ici, assez loin de là où tu as commencé.
Ouais.
J'aime beaucoup explorer les trajectoires des gens, qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent du point A au point B, tu sais. On peut parler de ça en fonction de comme de choix. Il y a des petits choix, il y a des grands choix, il y a des choix qui sont faits pour nous. Parle-moi un peu de ces moments charnières-là qui ont déterminé ta trajectoire.
La suite. Écoute, c'est pas compliqué. Moi, j'ai toujours suivi... c'est tellement cliché de dire ça. J'ai toujours suivi mon cœur, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis pas quelqu'un... Peut-être que je m'en pose plus maintenant que j'ai 43 ans, je pense que oui. Mais je ne suis pas quelqu'un qui s'est beaucoup posé de questions sur ce qui allait arriver dans 2 ou 3 ans. Je ne me suis jamais vraiment projetée dans l'avenir. Je ne me suis jamais dit « Hey, je vais être mariée, je vais avoir 2 enfants, je vais faire ça. » Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, j'ai toujours été menée par ce que j'avais envie de faire. Puis, même mes choix scolaires, là, je suis restée... dans le domaine de la communication. J'ai un bac interdisciplinaire en art et je suis revenue au Saguenay étudier au BIA, au bac interdisciplinaire, avec une majeure en théâtre. J'ai été comédienne pendant longtemps parce que j'avais fait 1 an à l'Université Laval en journalisme puis je détestais ça. Et je n'ai rien contre les gens qui ont fait communication à l'Université Laval, mais je détestais ça. Je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression qu'on parlait justement pas assez de journalisme, mais beaucoup de PR, tu sais, de relations publiques. Et ça m'intéressait pas. Donc, je suis rentrée à la maison faire mon bac en art. Et mon père était directeur du module des arts à l'université. Il a pas trouvé ça particulièrement drôle. La première journée où je lui ai dit... en plus, j'ai fait ça à mes parents le jour avant de retourner à l'université. Je leur ai dit « j'y vais pas ». Puis ils m'ont dit « ben voyons, qu'est-ce que tu veux faire, Marie? » Je dis « ben je vais rester ici, je vais étudier en art ici, je veux pas y retourner ». Puis ils m'ont dit « ben tu vas rester ici une session, tu vas essayer, puis tu vas retourner en janvier, tu vas finir en certificat, tu sais, au moins ». Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une session à Chicoutimi. J'ai adoré ça. Là, je me sentais totalement, mais totalement à la bonne place. Je me suis fait des amis tout de suite. J'étais... sur, tu sais, l'expression être sur son X, là, j'aime pas particulièrement ça, mais c'était ça. Je suis retournée à Laval pendant une session où ben, ça n'a pas marché, là, l'histoire du certificat. Je faisais pas grand-chose, là. Je n'aimais pas ça. J'étais pas très bien. Puis finalement, c'est ça. Je suis revenue finir mon bac au Saguenay. J'ai travaillé longtemps dans le milieu culturel là-bas. Après, j'ai joué au théâtre pendant plusieurs années, beaucoup, de façon professionnelle. Le Saguenay a ce microcosme-là théâtral qui a été d'ailleurs bon, très, très créé, en fait, qui est né de ce bac interdisciplinaire en art. Il y a bien beaucoup, beaucoup d'excellents comédiens et d'artistes qui sont restés dans la région à cause de ça, à cause du bac. Puis ça a créé ce microcosme-là. Il y a 5-6 compagnies professionnelles de théâtre au Saguenay qui fonctionnent maintenant. Donc, j'ai joué au théâtre beaucoup. J'ai travaillé pour le Festival international des arts de la marionnette de Saguenay pendant longtemps. J'ai travaillé pour un court moment pour Regard sur le court-métrage. J'ai fait beaucoup de bénévolat pour le festival, pour Regard aussi, au Saguenay. Donc, j'ai beaucoup baigné dans ce milieu-là. Une vie à contrat, là, tu sais, évidemment, pas facile. Je peux pas dire que tu es très riche, tout ça. Et puis, j'ai rencontré ma conjointe sur les internets. et voilà. Vrai? Et voilà, oui. Je ne raconterai pas ça en détail, là, mais c'était pas un site de rencontre. En tout cas, c'est une histoire que si un jour il y a des gens qui me croisent puis on prend un verre, ça me fera plaisir de raconter ça. Mais ouais, on s'est rencontrés sur Internet, mais c'était pas une application de rencontre. Et puis
c'était pas sur Tinder ou réseau rencontre.
Non, tu sais, ça fait 14 ans que ça existait. Ces applications-là existaient pas ou très peu, je pense. Là. En tout cas, il y en avait quelques-uns, sites de rencontres, mais il n'y avait pas... Puis bref, ben c'est ça, elle était ici, avec deux enfants, une vie bien installée. Donc, ça allait comme de soi que c'était plus facile pour moi. On a vécu comme ça un an et demi à distance. Puis on s'est rencontrés en 2008 et je suis arrivée à Vancouver en 2010. Octobre 2009, ouais, dans ce coin-là, là, tu sais, fait que c'est ça. Donc, je suis arrivée ici, puis j'avais pas plus de job. Étais-tu déjà venue ici? Non, ben, j'étais venue en visite, la voir, ici, là, évidemment, okay. Avant. Mais jamais de ma vie, j'aurais pensé vivre à l'extérieur du Québec. Jamais. Jamais. Puis je suis arrivée ici comme ça, en ne parlant pas anglais. Mon anglais était très, 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 très de base. Alors, j'ai appris l'anglais un peu comme ça. Là, ça va mieux quand même après autant de temps.
Ta conjointe est anglophone, non?
Oui, mais parle français. Parle français.
Ah, OK. Aussi.
Donc, bilingue. Mais évidemment, bon, notre langue d'usage, moi, je lui parle souvent en français. Elle me répond en anglais. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Mais elle comprend parfaitement ce que je lui dis en français. Elle s'est habituée à mon accent québécois, puis à mon accent saguenéen, parfois, qui ressort aussi. Et je parle vite, fait qu'il a fallu qu'elle s'y fasse, là. Mais bref, c'est ça, je suis arrivée ici à Vancouver à cause de ça. J'avais pas d'emploi, je savais pas ce que j'allais faire, là. Aucune idée. Puis, c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai fait sans m'en rendre compte, ça. Maintenant, quand je vois ce que j'ai fait, là, je me dis, mais hey! C'est fou quand même, tu sais. C'est fou de faire ça, de dire...
folle!
Oui, de dire bye à tout, là. Tu sais, ma famille, mes amis, j'ai tout quitté, là. Je suis partie avec ma voiture, mon chien et ma mère. Ma mère est repartie, mais c'est ça. J'ai renvoyé ma mère en avion. Ma mère s'est assurée que c'était pas... Ben, ils s'étaient rencontrés, évidemment, avant, là, mes parents et elle, mais c'est ça. Maman est venue ici, est restée quelques jours avec nous, puis est repartie en avion. Puis là, ben voilà, c'était qu'est-ce que je fais maintenant, tu sais, où je travaille, ne parlant pas anglais et tout ça, ben j'ai erré pendant quelques mois. Je suis devenue aussi un parent, parce qu'évidemment, on avait les garçons en garde partagée, une semaine sur deux. Fait que pendant longtemps, pendant quelques mois, j'ai fait des lunchs puis j'allais les reconduire à l'école. Tu sais, je suis devenue... ma vie a vraiment changé, là. Tu sais, je suis tombée dans un autre modèle totalement.
Wow, là, belle-mère au foyer, genre.
Ouais, genre. Puis, tu sais, j'avais 20... J'avais 30 ans. Je venais d'avoir 30 ans. Fait que
quel âge ils avaient, les garçons, à l'époque?
Les gars, quand j'ai rencontré les gars, ils allaient avoir 8 ans. Ils avaient 7 ans et demi. Ils étaient tout petits. C'était deux petits frisés blonds. Absolument adorables. Ça, c'est bien. Parce que, et eux parlent français. Sont allés à l'école en français. Parlent parfaitement les deux langues. Donc, ça, c'est pour... Bon, ça a été plus simple comme ça. Mais bref, j'ai finalement écrit une lettre à Radio-Canada. me disant que j'avais déjà fait de la chronique au Québec. Puis j'ai écrit une lettre à Radio-Can, puis les Olympiques sont arrivés. Et ça, ça a été ma porte d'entrée. J'ai été engagée pour couvrir le secteur culturel. Évidemment, avec le bagage que j'avais, j'étais capable de couvrir le culturel. Donc, j'ai couvert tous les shows pendant les Olympiques. En français, tout le monde était ici, là, c'était fou. La quantité de shows que j'ai vus pendant ces deux semaines-là, ici, j'étais partout. C'était le début de Mister Valère, c'était le début de Radio-Radio, c'était Carquois, c'était Ariane Moffat. En tout cas, il y avait énormément de monde.
Je dois dire, les Olympiques à Vancouver, c'est probablement un cliché, là, mais c'était une période vraiment spéciale.
Vraiment.
Puis je me souviens vraiment. Aussi, moi, ça faisait à l'époque 5-6 ans que j'étais à Vancouver. Puis j'avais un peu travaillé avec des gens dans les médias au Québec aussi. Puis tout le monde du Québec était ici. Le monde entier était
c'est
là.
Bon. Oui.
Il y avait
absolument.
Vraiment une énergie, une vibration vraiment spéciale. Moi, je trouve que ça a dû être un beau moment pour commencer.
C'était un très, très beau moment. C'était très
inspirant. Dans le monde des médias ici.
Ben oui, c'était très, très inspirant parce qu'évidemment, tout Montréal était comme. Bon, la tour avait déménagé à Vancouver là, et tout le monde était là. T'sais, Marie-Louise était là, Marie-Louise Arsenault pour faire son émission. Infoman était là, Jean-René, Patrick Masbourian était là aussi pour son émission, et certains d'entre eux faisaient des émissions spéciales, Monique Giroux aussi, en tout cas, fait que tu sais, on était dans ce monde-là, puis moi je servais de chroniqueuse à ces émissions-là, puis à une émission très très tôt le matin qui était faite ici sur Ici Musique, qui s'appelait je sais plus comment dans ce temps-là, puis on est bon dans le changement, on change de nom en Radio-Canada, je peux pas dire, je sais pas si on est bon, mais en tout cas on change de nom, une fois de temps en temps. Alors je sais pas comment ça s'appelait dans ce temps-là, mais bref, après j'ai fait de la recherche, et j'ai pas mal pendant 2-3 ans tout fait à Radio-Can ici. J'ai fait de la technique télé, j'ai fait des ressources, j'ai fait des moyens de production, j'ai fait name it, et puis jusqu'à ce que j'aie une petite émission du midi qui s'appelait Repère, qui durait 23 minutes. Puis après, j'ai animé l'émission d'après-midi, le retour, là, de 15-18 pendant un an. Et Myriam Fémieux a quitté le matin pour revenir à Montréal, puis c'est là que j'ai appliqué, puis j'ai eu le poste du matin, puis c'est ça. Voilà. On est aujourd'hui. Et presque 10 ans plus tard, je tiens la route. J'essaie en tout cas, le plus que je peux.
C'est plus une question qu'une affirmation que je vais faire, là, mais je vais le dire comme ça. Comment tu considères la vie à Radio-Canada Vancouver? Comparativement à ce que ce serait peut-être, puis évidemment, tu n'y as pas travaillé directement, mais est-ce que ce serait si tu étais à Montréal, par exemple?
Ben, vois-tu, j'ai passé un mois au Saguenay, j'ai travaillé cet été au Saguenay. J'ai animé l'après-midi pendant un mois là-bas cet été. C'est deux choses différentes. Tu sais, travailler en milieu minoritaire, c'est un monde, là. C'est un monde. C'est à la fois quelque chose de fantastique parce qu'on est plus loin de... Du gros de l'affaire. Donc, je pense qu'on a quelque part une plus grande liberté de création. On n'est pas en compétition. Je fais toujours la même blague quand les numéristes sortent au Québec. Je dis toujours, moi, j'anime la meilleure émission, l'émission numéro 1 en français à Vancouver. T'sais. Puis c'est fantastique. Je suis numéro 1 dans mon marché. Évidemment, je suis la seule.
Voilà.
Mais c'est ça. Mais ça a du bon puis du moins bon, ça. Ça nous permet de créer des affaires différentes. Puis on a accès à un plus grand territoire. T'sais. Ici, on anime pour la province et pour le Yukon. C'est énormément de travail en même temps parce qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais on parle à beaucoup de monde qui vivent dans différentes régions et dans différentes situations, que ce soit économique ou sociale, ou seulement de territoire. T'sais. Parce qu'évidemment, vivre à Whitehorse, ce n'est pas la même chose que vivre à Campbell River ou à Kamloops ou à Vancouver. T'sais. Ça, c'est fantastique parce que ça fait en sorte que tu rencontres beaucoup plus de monde que si j'étais à Montréal. T'es pas dans un petit microcosme urbain à t'occuper de toi-même. Je pense que aussi quand même, on a le défaut de nos qualités, c'est-à-dire que, comme à Montréal, des fois, on peut reprocher à la radio montréalaise de parler souvent beaucoup de Montréal et très peu des régions. On peut avoir ce même défaut-là ici parce qu'on est nécessairement à Vancouver, quoique de plus en plus, on essaie vraiment d'aller, particulièrement cette année, d'aller chercher les gens, puis de pouvoir sortir, d'aller les voir davantage, puis de comprendre les enjeux des régions. Je suis très sensible à ça parce que je viens du Saguenay. Je me souviens toujours de ma mère qui, si Pascal Yakouvakis ne se rendait pas à la carte météo du Saguenay, c'était grave. C'était grave parce que c'est là, on sait bien, il ne se rendra pas. T'sais, fait que c'est comme... Puis je comprends cette frustration-là, parce que c'est vrai, on a cette impression-là de ne pas compter, c'est pas cool, c'est pas le fun. Fait que ça, c'est ça. Mais bref, on fait de la radio avec une plus grande liberté, je pense, peut-être. Puis on peut se permettre des choses qu'on pourrait peut-être pas se permettre ailleurs. Puis on doit rencontrer plus de monde, puis on a la chance de rencontrer plus de monde aussi. Ça, je suis sûre de ça.
Puis de traiter... Il faut les chercher aussi.
Oui, il faut les chercher. Ça, c'est sûr, il faut les chercher, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de francophones ici. J'ai l'impression que, en tout cas, cette communauté-là francophone a beaucoup changé aussi, tu sais. On parle pas aux mêmes gens. Moi, je parle à des Africains, je parle à des Français. Il y en a beaucoup maintenant ici. Je parle aussi à des Québécois. Je parle à certaines tranches d'âge. C'est très, très grand et très, très large, là, notre auditoire. Tu sais, c'est tout le monde. C'est vraiment tout le monde. C'est international, c'est pas régional. Et c'est francophone, mais c'est des Français. C'est pas la même langue non plus. Hein. Tu sais, on parle à des francophiles, on parle à des francophones de France, des francophones d'Afrique encore, puis des francophones du Québec, qui ont toutes des différences culturelles, des différences de langage aussi. C'est un défi. C'est vrai que c'est un défi. Puis c'est un défi que je pense que si tu ne l'as pas fait, je pense que si tu n'as pas travaillé en milieu minoritaire, tu ne comprends pas ces défis-là de la même façon. Les combats d'une minorité aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris ici. Tu sais, on le voit pas le reste du Canada quand on est au Québec. Pas tant que ça. On n'est pas conscient de ça. Et je dis toujours à tout le monde, quand je retourne à la maison, tout le monde devrait sortir. Tout le monde devrait partir pendant un an. Moi, je regarde plus le Québec comme je le regardais avant. T'sais. La distance, ça fait ça. On change notre regard. On apprend que oui, il y a des choses meilleures ailleurs, puis il y a des choses meilleures là, puis tout n'est pas parfait. Mais on apprend à mieux se connaître, puis à mieux se comparer aussi. Puis le travail me permet ça tout le temps. T'sais. Parce que je travaille avec des gens du Québec, puis je travaille avec des gens ici. Puis je comprends ces batailles-là maintenant. Mieux, certainement.
Je suis une grande... promotrice de cette idée-là, les Anglais parlent de gap year. Au lieu de passer directement de l'école secondaire à l'université, comme on le fait dans le monde anglophone, ou même du cégep à l'université, peut-être dans le cas du Québec, de prendre un moment pour faire autre chose. Puis ça, c'est peut-être aussi un réflexe de ma carrière dans mon ancienne carrière. Moi, je faisais de la recherche sur les cégepiens, puis après sur les universitaires, tu sais. Puis le nombre d'étudiants qui vivotent d'un programme à l'autre, peut-être un peu comme tu l'as fait, tu serais peut-être pas allé en journalisme tout de suite après
le cégep. Certainement pas. Non, c'est ça.
Ça n'a pas nécessairement été une mauvaise chose, mais bon.
Mais il y a des périodes dans la vie qui servent à ça, tu sais. Puis je pense que le début vingtaine, ça sert à ça. Puis le début 40, ça sert à ça aussi. Il y a des moments de passage qui sont importants. Puis là, tu sais, je vis... Les garçons ont 22 ans maintenant. Puis je les vois faire, là, tu sais. Je le vois. Je comprends ça, tu sais. En même temps, quand t'es parent, c'est bien angoissant parce que tu te dis... OK, mais j'aimerais ça que tu te trouves. Puis les nôtres... C'est, je dis 22 ans parce que c'est des jumeaux, là. Les deux font... ont un chemin, tu sais, ils savent où ils vont. On est très chanceux de ça, mais en même temps, je vois bien ces questions-là, tu sais. Puis un an de ça, peut-être d'autres choses. Ils voient pas... On se pose des grandes questions à cet âge-là, puis on n'est pas tout de suite obligé de trouver les réponses, tu sais, je pense. Puis peut-être que comme parents, je leur laisse pas assez ça, le temps de réfléchir, parce que j'aimerais tant ça qu'ils se trouvent, puis qu'ils soient bien. Ils sont bien, mais c'est ça. Il faudrait peut-être que j'apprenne à les laisser réfléchir davantage. Mais c'est vrai, c'est un moment hyper important. Puis je pense qu'on retrouve ça au début de la quarantaine. Ce qu'on appelle la crise, là.
Ouais.
C'est pas...
Je vais
Tu veux que j'arrête?
Je te ramène dans un, okay. Un petit moment là-dessus, parce que je vais faire une parenthèse avant sur la fin de vingtaine puis la trentaine, parce que j'allais te dire tout à l'heure, tu as fait tes bagages, puis tu as décollé du Saguenay pour t'en venir à Vancouver avec ta mère quand même pour checker que tout était correct. Mais si je peux me permettre de dire, ça devait être le grand amour.
Oui, oui, oui. Ah oui. Ah non, c'est clair. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Il n'y avait pas de question là-dessus. Il n'y avait vraiment pas de question. Ça, c'était évident. Ça, c'était évident. Puis quand, bon, la décision a été prise rapidement. Mais vraiment, il y a des moments de ça dont je me souviens pas. Je me souviens pas d'avoir vidé mon appartement. Je me souviens pas de... Tu sais, je me rappelle que je perdais mes cheveux. Je me rappelle ça parce que je suis très stressée. Ça m'énervait beaucoup, beaucoup. Mais il fallait que je le fasse. Tu sais, j'étais menée par ça. Puis il fallait que je le fasse. Je l'ai fait comme ça, mais pas sans stress, loin de là. Mais bon, on le voit bien, ça a valu la peine, là, tu sais. J'ai gagné au change, je pense, en faisant ça. Mais c'est ça, tu sais, maintenant, ça va faire quand même 12 ans que je suis à Vancouver, là, tu sais. Fait que c'est... Est-ce que c'est la maison? Oui. Est-ce que l'autre maison existe encore? Oui. Est-ce que je le sais? Ce que je vais faire plus tard? Non. Est-ce que je me pose des questions?
J'aime ça.
Oui. Tu sais, je suis un peu toujours comme ça, en fait, tu sais. Il n'y a pas de porte fermée, il n'y a pas de... Je ne sais pas si c'est parce que je ne veux pas le savoir ou je m'en vais. Tu sais, moi, je n'irai jamais, genre, il y a du monde qui va avoir des voyantes, là. Moi, je ne veux pas savoir. Je ne suis pas sûre que j'y crois non plus.
D'abord. Tu ne lis pas la fin des livres, toi?
Non. Non, 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 non. Souvent, je ne les finis pas, d'ailleurs. Mais... Mais c'est vrai, c'est très... Mais d'abord parce que je lis beaucoup pour le travail, puis c'est rare que j'ai le temps de finir. Mais c'est ça, c'est... Peut-être que je me posais pas assez de questions, puis là, je m'en pose davantage. C'est probable. Mais j'étais une grande fan de se lancer dans le vide. Ou de laisser faire les choses. T'sais? Ça aussi, ça peut être une grande qualité, un grand défaut, là. Je suis capable des deux. Fait que...
Laisser aller.
Ouais.
Je me mets à ta place, là. Je m'imagine cette situation-là. Moi, je suis arrivée à Vancouver avec une valise, puis rien d'autre. J'avais pas, je m'en venais pas dans une relation ou quoi que ce soit. Ben, je m'en venais dans un programme universitaire. Mais bon, ouais. Je m'étais inscrite pour faire un doctorat, mais c'est peut-être moins viscéral. Mais moi, je m'imagine à ta place, puis ce qui, je sais, m'aurait fait le plus peur à moi, c'est cette idée-là d'être belle-mère. Puis j'aimerais te demander, ça a été quoi ton expérience, ta réalité de devenir belle-mère, la blonde de ma mère?
Ouais.
Il y a plein de dimensions à ça.
Non seulement la blonde.
Vraiment, dans une minute.
Mais pas seulement la blonde, mais la personne qui s'installe à la maison. T'sais. Il n'y a pas eu de transition. Là. Il n'y a pas eu de... T'sais, j'arrivais ici et je m'installais ici avec eux. Ça a été... Bien, d'abord, c'est des enfants extrêmement attachants. C'est des enfants qui... j'étais pas la raison de la séparation non plus. Donc ça, déjà, ça part mieux. On parlait la même langue, ça aide aussi. Mais c'était des enfants très, très ouverts. Et très capables de s'ouvrir aux autres. Donc ça, cette transition-là, c'est bien fait. Je suis tombée en amour avec ces enfants-là très, très rapidement. Là. T'sais, on s'entendait bien, je passais beaucoup de temps avec eux. Donc... je suis devenue rapidement, je pense, la belle-mère cool. Je suis plus jeune que ma conjointe, donc j'étais plus proche d'eux, tu sais, un peu. Puis, j'étais très contente de les avoir. J'adore les enfants. J'aime beaucoup, beaucoup les enfants. Je me suis jamais posé la question si j'en voulais moi, à moi. Ça n'a jamais été clair non plus, ça. Puis la vie a fait qu'ils sont arrivés dans ma vie, puis je dis toujours, je les ai eus à 7 ans, propres et élevés. Puis c'est vrai, c'est ça qui est arrivé. Puis je les considère comme mes fils, là. Je veux dire, bon, c'est évident que c'est mes enfants. Et je les aime de cette façon-là. Autant. Ça, c'est clair. Puis c'est ça, je pense que le fait qu'ils m'ont accepté tout de suite, ça m'a aidé, moi, à accepter ça aussi. Que j'avais maintenant... je suis pas responsable, tu sais. C'est un drôle de rôle, évidemment, parce que je serai jamais la mère-mère, tu sais. Les enfants disent qu'ils ont trois mères, puis c'est ça. Ils ont trois parents, ils ont trois mamans. Puis ils le voient comme ça, c'est ce qu'ils ont dit... à leur cérémonie de quand ils ont obtenu leur diplôme de secondaire, tu sais, ils ont dit ça, on remercie nos trois mères. Puis ça, c'est drôle parce que dans une salle, ça fait réagir. Voilà, 3 mètres, que c'est ça. Mais bref.
Des jumeaux en plus, tu sais. Des jumeaux en plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Oui. Non, c'est ça, des jumeaux, ouais.
La génétique, il y a tout ça. Ce monde-là.
Bref, ça s'est plutôt bien fait. Je regrette rien de ça. Absolument pas. Mais ça peut être un rôle très, très ingrat. D'abord, j'haïs ça, belle-mère, tu sais, quand on dit ça, c'est, ça n'a jamais l'air le fun. Tu sais, c'est jamais le fun, être une belle-mère. C'est pas le fun. Quand souvent, on parle de la belle-mère dans le discours, là, c'est toujours la pas fine, tu sais, c'est toujours la méchante, c'est l'empêcheuse de tourner en rond, c'est... Fait que j'aime pas ça, cette expression-là, mais c'est ce que je suis, puis ça déjà, je l'accepte pas encore, qu'on m'appelle comme ça. Mais... un jour, il faudrait que je me mette à réfléchir plus concrètement à ça. Il y a des grandes frustrations là-dedans, parce que d'abord, faut que tu acceptes de partager l'amour que tu as. Au début d'une relation, on s'est tous commencé, là, tu veux être toujours avec la personne, tu veux être le centre de l'attention de la personne que tu aimes, puis tout ça. Puis moi, dès le départ, il a fallu que je partage ça, que je comprenne que je serais toujours la deuxième. Ça, c'est évident. Puis c'est normal. Quand on est parent, on le sait. Ça vient après. Tout vient après nos enfants. On veut le meilleur pour eux, puis d'abord et avant tout, on va vivre pour eux, puis on va faire en sorte qu'ils soient heureux avant tout. Ça a été difficile pas à accepter, mais à comprendre. T'sais, ça a été long avant que je le comprenne, parce que cet amour-là, je le connais pas. Il n'y a jamais personne qui est sorti de mon corps. Je sais pas ce que ça fait, ça. Non, c'est vrai, c'est un amour qu'on construit, mais tu sais, quand peut-être rien manqué. Mais tu sais, cet amour-là, de les mères, les femmes... ou les personnes qui ont des enfants, tu sais, disent tout de suite, dès que je l'ai eu dans mes bras, j'ai compris que j'aimerais jamais plus que ça, tu sais. Bon, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais j'ai beaucoup entendu ça, tu sais, fait que je vis toujours dans le « Ah ouais, qu'est-ce que ça fait, ça? » Je sais pas, tu sais, moi, c'est un amour que j'ai construit pour les garçons. Puis, c'est ça. Donc, des fois, de partager ça, c'est difficile. Mais à cause de la garde partagée, ça, j'ai souvent dit, c'est la meilleure invention après la laveuse. C'est la garde partagée. Parce que ça permet ça, de te retrouver une semaine avec ton amoureuse, puis d'avoir les enfants après. J'étais contente de les voir arriver à chaque semaine. Mais c'est ça, non, c'est un drôle de rôle, puis on s'y intéresse pas assez en société, parce qu'il y en a de plus en plus de ça, là, tu sais, des parents séparés qui ont des nouveaux conjoints, conjointes, il y en a de plus en plus, des beaux-pères, des belles-mères, puis un jour, je ferai un podcast là-dessus, peut-être.
Mais ça serait une super belle série podcast.
Ouais, je pense que oui, peut-être quelque chose là-dedans.
T'as sûrement vu... Quand on était pas vieille, les tiens, les miens, les nôtres.
Mm-hmm.
Je sais pas si tu te souviens, c'était un film à la télé qu'on voyait le samedi soir vers 6h30. Oui, mais...
tout à fait. Mais c'est ça.
Ça fait des belles histoires depuis longtemps.
Puis ça fait des belles familles, tu sais, aussi. Je pense que les gars, si on leur donnait la parole, je pense qu'ils ont eu une enfance heureuse comme ça, tu sais. Ils ont vécu d'autres choses, ils ont connu d'autres mondes, ils ont des grands-parents qu'ils n'auraient pas eu sinon, tu sais. Mes parents sont devenus grands-parents. Mes parents donneraient tout pour ces enfants-là. Les garçons aussi, ils les adorent. Donc, ils ont une autre famille, tu sais, mes oncles, mes tantes, mes cousins, tout ça. Les garçons sont proches d'eux, puis les aiment aussi. Tu sais, ça élargit leur vie. Puis je pense qu'eux en sortent grandis, puis plus aimés, au final.
Parlons de la crise de la quarantaine, Marie. on y est. Ça fait 40 minutes qu'on se parle de ce temps.
Ouais, ouais.
Parle-moi de ça. Qu'est-ce que c'est avoir 40-quelques années pour toi?
Moi, je riais un peu de ça, les crises, là. Puis je disais que ça se... Voyons, non. C'est pour les autres, les crises. C'est pas vrai. Ça existe, cette crise-là. Hein, Brigitte? Elle est là. Elle existe.
Oui, madame.
C'est pour qu'on en parle. Elle est forte aussi. C'est pas quelque chose que j'ai senti au départ. Quoique, j'ai... vraiment pleuré quand j'ai eu 40 ans. Puis je me dis, ah, l'âge est dans la tête, tu sais, ça change rien, non, non, non. Puis là, maintenant, tu dis, ah, ouais, OK, mais c'est pas dans... Oui, c'est dans la tête, là, mais c'est dans la société aussi, tu sais. Quand tu dis, j'ai 40 ans, les gens te regardent pas de la même façon que quand tu dis, j'ai 35. Puis on devient comme une madame, tu sais, pas une madame... J'ai ça aussi, tu sais, quand on dit Madame Villeneuve, ça me tue. Mais on est un adulte. Tu sais, tu peux dire je suis jeune-ish. Tu sais, je suis pas grande, mais je me sens, il y a rien de moi qui des fois agit comme une adulte, là, absolument, là, tu sais, je suis pas particulièrement mature. Mais en même temps, tu sais, je suis très désorganisée dans la vie, j'apprends à être meilleure, là. Et je salue mon réalisateur David Thibodeau pour ça, qui était mon maître de là-dedans. Mais sinon, ça a été un grand bouleversement et ça a amené beaucoup de questions. Puis tu sais, c'est des classiques, là, où je suis, où vais-je, qui suis-je, qu'est-ce qui se passe. Puis c'est pas fou de se les poser, ces questions-là, non plus. Je pense que c'est voire même c'est sain. Mais il y a une espèce de grand brassage là, de « OK, tu vas-tu vraiment faire ça toute ta vie? Tu veux-tu rester ici toute ta vie? Qu'est-ce qu'on fait du reste? » T'es-tu capable d'être heureuse de même tout le temps? Ou tu veux faire d'autres choses? Puis si tu veux faire d'autres choses, ben ça serait comme le temps que tu le fasses, là, tu sais. Parce que... tu vas-tu changer de carrière à 50 ans? Je penserais pas.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Non, mais oui, j'exclus pas le fait que ça soit possible, tu sais. Mais ces questions-là me sont comme apparues.
Plutôt, c'est plus facile que plus tard.
Peut-être. Ouais. Plus, en fait, OK, tu sais, pour la fille qui s'est dit « Ah, ouais, je laisse la vie me mener. Hein, » peut-être que là, ça serait le temps que tu mènes ta vie. T'sais. Peut-être que ça serait le temps que là, tu pédales puis que tu conduises le vélo. T'sais. Ça serait peut-être le temps que tu décides. En tout cas, que tu traces un chemin peut-être un peu plus précis avec des objectifs que tu vas atteindre peut-être un peu plus précis qui ne deviendraient pas juste des rêves. Quand je vais être grande, je vais faire ça. Mais que tu dises là, peut-être que tu es grande, ça serait le temps que tu le fasses. C'est ça.
Est-ce que c'est la destination qui t'importe davantage ou le paysage? Prenons ton allégorie du vélo, là, ta métaphore.
Le chemin m'intéresse beaucoup. Ouais. La façon d'y parvenir est intéressante. La destination aussi, mais le travail vers quelque chose d'intéressant, que ce soit sur toi ou pour le travail. Moi, cette année, là, j'ai commencé à consulter.
Mais qu'est-ce que tu veux faire, Marie?
C'est ça. Mais tu sais, je me suis dit, OK, t'es qui? D'abord, tu te connais-tu? Tu fais plein d'affaires, là, tout croche, là. Pourquoi tu fais ça? J'ai commencé à consulter, puis ça, je le dirais à tout le monde. Psychologue. Allez par là du monde. Tu sais, je suis fille de psy, ma mère est psy. J'avais jamais consulté de ma vie, puis c'est pour les autres. Non! C'est pas pour les autres, c'est pour nous, c'est pour tout le monde, ça. T'sais, d'aller parler à quelqu'un qui te connaît pas, qui est capable de te guider, de te faire du bien, ça fait un bien fou. Alors d'abord, j'ai commencé ça, puis ça fait pas si longtemps, mais de se connaître mieux, puis de se confronter un peu plus, là, t'sais, à ce qu'on veut devenir, puis à ce qu'on veut être. Puis je pense pour vrai que c'est sain, t'sais, ce passage-là. Là, ça fait 3 ans que je suis là-dedans, là, t'sais, puis il y a une pandémie à travers tout ça. Mais... je pense que c'est super le fun. Pour vrai. C'est super angoissant, mais c'est un Christy de beau ménage. Tu sais, c'est le temps, là, de dépoussiérer les affaires. C'est le temps de régler des affaires. C'est le temps de te relancer dans quelque chose. C'est le temps de dire, OK, ça, oui, tu sais, je re-signe le contrat. Ça, OK, ça, je le veux. Ça, je le veux plus, tu sais. Pour arriver à je sais pas trop où encore, là, mais... tu sais, ça fait 10 ans que j'anime l'émission du matin. Je veux pas animer l'émission du matin jusqu'à ma retraite, là. Pas vrai. Donc, c'est maintenant que je me pose ces questions-là. Qu'est-ce que tu veux faire, là, après ça? C'est quoi, tu sais? Je suis vraiment en train de me poser ça, ces questions-là. Puis, t'es pas obligé d'avoir des réponses du jour au lendemain, tu sais, mais je pense que c'est le temps, justement, de... comme je disais, de faire des boîtes pour certaines affaires, d'aller porter des choses à friperie, puis d'acheter du stock neuf ou d'en revendre, tu sais? C'est ça.
C'est un bon projet.
Ouais,
qu'est-ce que t'as découvert? Qu'est-ce que tu as découvert? Peut-être qu'est-ce qui t'a surpris même dans ce processus-là?
Ben j'avais cet âge-là. Écoute, je me souviens d'un moment où j'ai dit, hey, t'as peu, là. Dans 40 ans, tu auras 80 ans. Tu sais, bientôt, là, la carte de la FADOC, là, elle arrive à 50 ans, là, au Québec, tu sais. Hey! T'sais, ça veut-tu dire que dans 7 ans, je suis une aînée? Hey, t'as peu, tu sais, dans ma tête, j'en ai 22, ça... tu sais, fait que ça a été d'abord de se rendre compte qu'on est des adultes. Tu sais, c'est quelque chose dans la vie, là. Puis tu vas me dire, Marie, tu le savais? Non, je le savais pas tant. Je le savais pas tant que ça que j'étais une adulte, puis je le constate maintenant. Mais quel genre d'adulte je veux être maintenant, tu sais? Puis ça, c'est un grand constat pour moi. Comment certainement être une meilleure personne et toujours avancer. Tu sais, quand on parle de carrière, pour vrai, dans ce monde-là, qui est un monde compliqué, là, celui des médias, tu sais, qu'est-ce que je veux faire maintenant, mais en avançant, tu sais. Je veux pas refaire ce que j'ai déjà fait. Ça, c'est sûr. Mais beaucoup de travail sur soi, je pense que c'est un beau moment pour faire ça, tu sais. Je juge beaucoup moins que je jugeais avant. Je regarde les situations, puis ça, c'est évidemment, bon, c'est mon travail aussi qui m'apprend ça, là, tu sais, on a un devoir d'objectivité sur tout, fait que tu finis par voir les choses, les deux côtés de la médaille pour bien les affaires tout le temps. Tu sais, t'apprends ça aussi en faisant du journalisme, je pense. Mais de moins juger les autres, d'être ouvert de plus en plus aux autres, aux situations qu'ils vivent, d'être plus généreux. Moi, j'ai envie d'être plus généreuse. Je pense que je suis quelqu'un de généreux, là, mais je sais pas. Je suis super sensible. Ça, c'est nouveau aussi. Là. Il y a peut-être une question d'hormones là-dedans, mais il y a une vraie sensibilité qui m'habite pour... qui est pas nouvelle. J'ai toujours été très, très sensible. Là, si mes amis écoutent ça, ou les enfants, ou ma blonde, ils vont dire « mais tu pleures tout le temps, de toute façon, c'est vrai, tout me fait pleurer tout le temps. » Mais j'ai des publicités qui me font pleurer, c'est ridicule. Mais quand même, tu sais, de faire quelque chose avec cette sensibilité-là, puis d'être meilleur. D'être une vraie envie d'être meilleur. Ça, c'est nouveau. Toujours voulu être une bonne personne, mais tu sais, d'être plus attentive aux autres, d'être plus attentive au monde dans lequel j'habite, de faire plus attention à ça. Tu sais, on traverse un moment particulier, là, tu sais, on est dans une espèce, puis on est dans une espèce de révolution aussi, de toute façon, dans le monde, tu sais, il y a plein de choses qui se passent en ce moment, qui changent, la COVID a changé beaucoup de choses aussi, tu sais, fait que c'est un gros moment de changement, puis ça aussi, ça nous fait bouger, nous, là, tu sais. C'est pas juste l'âge, c'est ça aussi. C'est ce moment-là, c'est l'époque dans laquelle on vit, tu sais, qui est fantastique aussi, puis qui fait peur. Fait que, c'est ça.
Je vais te poser une question vraiment difficile, puis que j'haïrais donc ça si quelqu'un me posait cette question-là, parce que moi, la raison pour laquelle j'aime la télé, puis la radio, puis les podcasts, c'est parce que il n'y a pas de ce que j'appelle, quand j'ai travaillé un peu en télé, la dictature du viz. Visuel. Il faut toujours montrer les images.
La radio, là.
On n'est pas ça. Ouais. Mais alors, je vais te forcer pour un moment à me donner du viz. Mm-hmm. Si on voyait ta vie avant et après, en sachant qu'après est peut-être dans l'avenir, avec ces transformations-là auxquelles tu aspires, auxquelles tu travailles présentement, de quoi ça aurait l'air? Qu'est-ce qu'on verrait qui serait peut-être différent dans ton existence, que ce soit au quotidien ou de façon même un peu plus aspirationnelle, mais tu sais, bien concrètement, là, de quoi ça a l'air?
J'aspire à gagner une plus grande assurance. J'ai très peu confiance en moi. Même si je suis consciente que je ne projette pas cette image-là en général. Mais cette insécurité-là qui m'habite, là, c'est ma grande affaire cette année. Je travaille là-dessus. Là, à 40... Avant, c'était très paralysant, l'insécurité. Puis je pense que dans l'avenir, c'est au contraire quelque chose qui va, j'espère, disparaître de plus en plus. Parce qu'on acquiert une expérience aussi. Quand je disais, tantôt, on est devenus des adultes. Je me rends compte maintenant qu'en travaillant, quand je vois les nouveaux, j'ai des réflexes, j'ai acquis des affaires. Je peux m'asseoir maintenant sur quelque chose que j'ai construit, puis des choses que j'ai apprises au travail. Puis ça m'appartient, c'est mon bagage à moi, tu sais, puis ce bagage-là, quelque part, maintenant, il est rassurant, tu sais. Fait que je peux me dire, tu sais, quand même, fille, ça fait 10 ans que t'animes une émission du matin, là. T'en as fait des entrevues, t'en as appris des choses, t'en connais des affaires. T'sais, ça, maintenant, je suis capable de m'asseoir là-dessus. Fait que je pense que la Marie du futur, cette insécurité-là, on va l'avoir de moins en moins. Puis je vais être moins paralysée, parce que pendant longtemps, ça m'a paralysée. Tu sais, puis ma façon de rester au même endroit longtemps, installée dans quelque chose, c'était très rassurant, tu sais. Puis maintenant, je pense qu'à 43 ans, je suis capable de dire, « OK, ben c'est-tu quoi, je veux plus faire ça. Fait qu'on va faire d'autres choses. Je sais pas trop quoi. Mais j'ai l'expérience que j'ai dans mon sac à dos, tu sais. Avec ça, je peux vous donner ça, moi, maintenant. Puis je peux vous assurer de ça. Et ça, c'est fun, tu sais. Ça, c'est vrai que c'est le fun. Tu sais, j'avais jamais pensé à ça un jour que je serais capable de dire « Hey, c'est-tu quoi, moi, je vois ça? » Tu sais, moi, je suis capable de vous donner ça. Puis je pense que c'est ça, la mariée du futur, elle va être plus sûre d'elle,
ouais.
Je pense. Ouais. Ouais,
juste pour le fun, là, disons, imaginons deux ou trois scénarios. Puis je dis deux ou trois parce que si t'en dis juste un, c'est comme ça te commet, tu sais, un petit peu. Si on dit deux, trois scénarios, tu sais, qu'est-ce que ça, tu pourrais faire de différent comme job, disons-le, parce que bon, avoir un métier, un travail, c'est intéressant, tu sais, donne-moi deux, trois exemples d'autres choses que t'aimerais peut-être faire.
J'aimerais faire une émission hebdomadaire à la radio, lâcher le quotidien pendant un moment, puis m'intéresser, prendre le temps de faire quelque chose d'autre dans d'autres formats. J'aimerais ça que les gens m'entendent dans un autre format que Far West, un jour, certainement. J'aimerais ça, tu sais, des fois, je regarde des trucs à la télé, je fais « Hey, je ferais ça, moi! » J'ai toujours dit que je ferais jamais de télé. On va pas le dire fort, ça se pourrait qu'un jour j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de rencontrer du monde. J'ai envie de parler à des gens. Ça, j'ai encore... Et ça, c'est... Tu sais, quand j'étais petite, moi, là, j'ai pas dit ça tantôt, mais quand j'étais petite, il doit y avoir des cassettes qui existent encore. Je m'enregistrais, puis je faisais de la radio. J'avais 7-8 ans, là, je faisais de la radio au chalet.
Ouais. Wow!
Si Marie-Villeneuve à la Terrière, il fait 26 degrés, on écoute maintenant Henri Dez. Puis là, je mettais un disque.
Une petite
toune. Ouais. Ou Brassens. Il y a beaucoup de... Et on écoute maintenant Brassens. Je mettais des disques comme ça. J'avais des goûts très éclectiques en musique, d'ailleurs. Là. Ça passait de... En tout cas. Mais c'est ça, tu sais, j'ai toujours voulu parler au monde. Toujours. Fait que ça va m'habiter encore. Fait que je vais toujours faire quelque chose qui fait en sorte que je parle à des gens puis que j'ai une équipe autour de moi. J'aime ça. Je suis pas quelqu'un de solitaire beaucoup. Je peux être très solitaire dans ma vie, très sauvage, mais au travail, j'ai besoin de monde, j'ai besoin d'une équipe. T'sais. Fait que c'est changer de format, aller plus loin, viser un nouvel auditoire. Tu sais, je l'ai fait cet été. Je suis allée animer au Québec pendant l'été. Ça m'a permis de me prouver des choses à moi aussi, tu sais, que j'étais capable justement de faire autre chose. Fait qu'à partir de là, j'y songe, tu sais, certainement. Fait que c'est ça. Je changerai pas de carrière, tu sais, je vais toujours faire ça. Mais je vais le faire différemment, certainement.
Vous encore dans les médias?
Oui. Oui. Fort probablement. Je m'ennuie du théâtre. J'aurais beaucoup de plaisir à jouer. Est-ce que je referais ça de ma vie? Ben d'abord, je pense que pour vrai que... Tu sais, quand t'es une femme et tu t'es actrice, c'est déjà compliqué, là. Je me relancerais pas comme ça là-dedans. J'aimerais ça refaire du théâtre, c'est sûr. Travailler dans le milieu culturel, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Tu sais, je pourrais retravailler dans le milieu culturel un jour, certainement. Je suis curieuse de tout aussi, tu sais. Puis ça a été toujours un peu un problème aussi, ça. Tu sais, j'ai jamais su ce que je voulais faire tant que ça parce que je veux tout faire. Tout m'intéresse. Fait que je fais le meilleur travail pour ça. C'est parce que je fais jamais la journée, jamais la même. Puis je me réinvente tout le temps, puis je me réinvente pas, mais en tout cas, toutes les émissions sont différentes, puis ça satisfait ma curiosité, tu sais, ce que je fais dans la vie. Fait que j'aurais voulu tout faire. J'aurais voulu être biologiste marine, j'aurais beaucoup aimé enseigner, j'aurais aimé ça enseigner aux jeunes. Une foule de choses que j'aurais aimé faire. J'ai fait de la musique, tu sais, j'ai fait 24 ans de musique. Donc, je fais aussi ça. J'ai de la musique. J'ai commencé le piano il y a 2 ans. C'est comme, tu sais, j'ai fait 24 ans de violon. Fait que... C'est ça.
T'as le choix.
J'ai le choix. C'est un beau choix, ça.
Est-ce que t'sais. Tu te vois rester ici, à Vancouver?
Je sais pas. Oui, pour l'instant, oui. Je suis très format hybride, là, tu sais, je pourrais vivre à quelque part d'autre pendant un moment, revenir ici. Ça, je me vois bien faire ça aussi. Retourner au Québec, tu sais, bon, on a l'âge aussi où nos parents sont en forme, ils vont bien, mais tu sais, ils vieillissent, puis je le vois que je suis loin. Tu la distance avant, quand t'es plus jeune, tu vois moins ça parce que tes parents sont en forme, tout va bien, tu vois pas la fin de ça, tu sais. Mais tout le monde vieillit. Mes amis vieillissent. Est-ce que j'ai envie d'être plus près de mes amis qui ont des enfants, de faire partie de la vie de ces gens-là? Mes cousins et cousines qui ont des enfants maintenant, j'ai une filleule au Québec, tu sais, Émilie qui a 5 ans maintenant, mais qui change tellement vite aussi, tu sais, puis que je vois pas tant que ça. Mes parents, encore une fois, tu sais, me rapprocher de ces gens-là, ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans ma tête qui fait que, OK, je me dis, tu sais, va falloir que tu y penses. Va falloir sérieusement que... Puis c'était le début de ça, là, tu sais, d'arriver à travailler un peu là, revenir ici. J'essaie de construire un modèle qui va satisfaire un peu tout le monde, tu sais, mais qui va d'abord me satisfaire moi. Parce qu'à cet âge-là, oui, c'est ça. Maintenant, on apprend à surtout à être bien. T'sais. Puis ça, c'est une tâche qui peut paraître infinie, là, apprendre à être bien d'abord pour soi et avec soi, mais la quarantaine, ça sert à ça aussi, je pense, vraiment.
J'allais, t'amènes le sujet de tes parents, puis je vais en profiter pour nous orienter un peu, puis parler d'avenir. On a commencé à faire ça un peu, mais tu parles du fait que, bon, on vieillit, nos parents vieillissent, nos amis vieillissent, et... Je trouve que c'est un moment qui nous attache particulièrement au fait qu'on a un corps.
Ouais.
Qu'est-ce que ça te dit à toi quand tu penses à ta vitalité, à ta corporalité au moment d'affronter, d'embarquer dans cette deuxième moitié de vie?
Il y a deux semaines, là, je me suis barré le dos. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Voyons donc. C'est plus comme avant, hein? Qu'est-ce que tu veux? Ça, on a un corps qui vieillit et ça me force à faire beaucoup plus d'exercices. Puis le sport, là, quelle belle affaire. Tu sais, j'ai commencé à courir il y a 2-3 ans maintenant. Puis j'ai dû arrêter parce que je me suis lancée dans une distance pas possible alors que j'étais pas entraînée, puis je me suis fait mal. Puis, ben c'est ça aussi, hein, à cet âge-là, qu'est-ce que tu veux? On se blesse plus facilement, puis on revient pas de la même façon, un peu plus long revenir, tu sais. J'avais jamais de ma vie, là, consulté ni masso, physio. Là, maintenant, tu sais, c'est des affaires qui font partie de ma vie. Ah, oui, il faudrait aller chez le physio. Ah, oui, il faudrait aller se faire masser. Est-ce que j'y vais? Pas tant que ça. Je devrais. Mais... les blessures s'accumulent. Tu sais, il y a ça aussi. Notre corps, il accumule des blessures qui deviennent des vraies affaires. Tu sais, ça refait mal. Tu sais, les affaires du passé qui te font mal, là, qui faisaient plus mal. Il y a des... vive le yoga. Vive la course pour la santé mentale. Vive... le gym aussi, là. Tu sais, je me garde en forme comme ça. J'ai la chance d'avoir un corps qui récupère vite. Mais en même temps, on voit bien que si tu arrêtes d'aller au gym pendant un mois, là, ouch! On en perd plus rapidement qu'avant aussi, tu sais.
Ça prend plus longtemps
re-embarquer. Oui, fait que c'est pour ça que j'essaie de plus arrêter, tu sais, de continuer, de rester en forme. Parce que, pour vrai, parce que tu te sens mieux. Quand tu te sens vraiment bien dans ton corps, tu te sens mieux dans ta tête aussi. Puis ça, c'est relativement nouveau aussi, tu sais. C'est sûr qu'on vieillit. Tu sais, ça paraît pas, là, parce que... Mais j'ai les cheveux gris, là, tu sais. Je sais pas... C'est ça. On est des madames. Hein? Puis on a un corps qui change. C'est vrai qu'il y a des affaires... Notre peau change. C'est des affaires que je regarde, je fais comme, ah, c'est bien drôle, c'est pas ça, c'était pas de même. Tu sais, ça, avant, c'était pas... OK. Ce doigt-là, elle était pas là. Tu sais, quand je souris, c'était pas la même affaire. Il y a des petits trous, là, qui étaient pas là. En tout cas, il y a des affaires, tu sais, dans évidemment, on voit pas, là, mais je pointe des endroits sur mon visage. Mais tu sais ça, les traces de l'âge sont là, tu sais, de plus en plus aussi.
Est-ce que ça te dérange?
J'ai pas particulièrement l'air.
Ça fait partie, tu penses, de ton...
Ouais, oui, oui.
De ben, ton choc de la quarantaine?
Ça m'a peut-être dérangé, tu sais, au début, là, de ces changements-là. Maintenant, je me dis, tu sais, fais ce que tu peux avec ce que tu as. Puis essaie de garder ça le plus en santé possible. Puis ça va déjà être ça. Mais tu vois, bon, ma mère a fait un cancer du sein. Mes deux tantes, ma marraine et ma tante, ont fait un Bref, ma mère et ses deux sœurs on fait un cancer du sein, les trois. Fait que je suis pas mal sûre d'être la prochaine sur la liste. Fait que ça aussi, tu sais, ma mère a fait son cancer à 48 ans. Donc, est-ce que ça va faire partie de ma quarantaine, ça? Peut-être. J'espère que non, mais peut-être. Fait que ça, c'est un âge où... Ça, j'en parle plus sérieusement parce que ça m'inquiète pour moi. Ça, c'est une affaire très... très noire, tu sais, à quelque part, qui est là. Tu sais, c'est une espèce d'épée de Damoclès qui est peut-être là. À quelque part, en même temps, merci pour la science. On est super suivis. Tu sais, je fais attention à ça, tout ça. Fait que si ça m'arrive, j'ai tous les espoirs du monde de m'en sortir, tu sais, mais ça se peut que ça m'arrive, ça. Puis, ayant une mère qui a fait un cancer lorsque moi j'avais 16 ans, tu sais, ça me paraissait très, très loin dans ma tête. Tu sais, maintenant que j'ai 40 ans, 43, ça. C'est plus pareil, tu réfléchis plus à ces maladies-là de la même façon. Et je suis très hypochondriaque, fait que ça m'aide pas non plus. Mais c'est ça. La maladie, c'est quelque chose qui... J'ai des amis, là, tu sais, je reconnais des filles là, de notre âge qui ont eu des cancers du sein déjà. C'est ça.
On arrive à cette âge-là où
c'est plus fréquent, puis où on en entend plus parler. C'est ça.
Le fait d'avoir une conjointe et non un conjoint fait que vous êtes deux femmes. Tu dis être un peu plus vieille que toi. Est-ce que il y a quelque chose dans la dynamique ou quelque chose que tu as observé de son parcours à elle qui a un impact sur ta façon de voir les choses, tu penses?
Hey, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça. Je sais pas parce que...
Bon, j'avais pas pensé jusqu'à maintenant, non, là, mais comme t'en parles.
Oui, peut-être. Elle a une sagesse, évidemment, qui me fait beaucoup de bien, là, pour beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus accompli dans la vie, tu sais, que moi. Donc ça, c'est... J'ai tiré des leçons de ça, certainement. En même temps, c'est quelqu'un qui est très jeune d'esprit aussi, tu sais. C'est pour ça qu'on est ensemble aussi, parce que, bon, cette différence-là, je la sens pas, tu sais. Je l'ai jamais senti tant que ça, tu sais. Fait qu'elle existe, mais j'en suis pas consciente. Puis quand tu nous vois ensemble, tu fais pas « hi, mon Dieu ». Je pense pas que ça... Il y a une si grande différence, tu sais. C'est pas là. Bref, c'est pas... Il y a certainement, mais tu sais, comme tout couple, tu sais, tu regardes la personne avec qui tu vis, qui t'apprend des choses de toute façon, tu sais. Je sais pas si c'est une question d'âge, mais je pense qu'il y a une question d'apprendre de l'autre. On est deux femmes très différentes, tu sais. C'est certainement la personne avec qui j'ai été dans ma vie qui est le plus différent de moi. Mais ça me... Mon Dieu, tu sais, c'est un rock, là. C'est quelque chose sur lequel je me repose beaucoup.
Ça marche?
Oh oui, tu sais, moi, je suis la verbomoteur, je suis celle qui parle, je suis très là. Elle est capable d'être dans le silence puis de rester là-dedans pendant longtemps. Puis en même temps, moi, vu que ma job, c'est de parler, je suis bien contente d'être avec quelqu'un qui est capable d'être très calme. Fait que c'est parfait. Mais c'est ça, je pense que comme dans toute relation qui dure pendant longtemps, on devient un peu le complément de l'autre, là. Puis je sais pas si c'est l'âge, mais en tout cas, nos personnalités font en sorte que c'est comme ça. T'sais. C'est... rassurant. Je pense aussi. Nos relations sont pas les mêmes, tu sais. C'est sûr, on n'est plus... À l'âge où on a non plus, là, tu sais.
As-tu des inquiétudes face à l'avenir?
Je sais pas. Est-ce que j'ai peur de manquer de temps? Je sais pas, j'ai... Puis ça, c'est la COVID nous a fait ça aussi. J'ai envie de voyager. Là, j'ai une envie de. J'ai peur de ne pas avoir vu assez de choses. Ça, oui. De ne pas profiter assez des gens que j'aime. Oui. Ça m'inquiète. De pas être capable d'arriver à faire autre chose que ce que je fais là. J'ai peur de ça. Oui, ça m'inquiète. Je suis très inquiète de la planète. je suis très inquiète de le monde dans lequel mes enfants vont vivre. Puis en même temps, je reste très positive là-dedans en me disant qu'on va y arriver. Tu sais, mais j'ai l'impression qu'on va se faire tirer la face dans Graville pendant un petit moment. Tu sais. Ça m'inquiète.
Aïe, aïe.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je pense que tu sais,
c'est très graphique.
C'est pas de l'asphalte. Qui vient d'être installé, qui vient d'être posé. Ça sera pas comme ça. C'est ça. Ça, j'ai peur que la planète, que nous, on manque de temps pour réparer ce qu'on a fait. Ça, j'ai peur de ça. Puis je veux pas faire la même chose dans ma vie, c'est-à-dire, tu sais, j'ai peur de pas assez profiter du temps que j'ai. C'est vrai, ça. Ça, c'est nouveau, depuis que j'ai 40 ans. Le temps... Tu sais, là, nos parents, quand on était jeunes, ils disaient « Hey, que le temps passe vite, c'est déjà Noël! » Puis je dis tout le temps « Voyons donc, ça passe pas si vite que ça! » Arrêtez de dire ça! Ben là, je suis rendue à l'âge, je dis « Hey, que le temps passe vite, c'est déjà l'Halloween! » C'est comme... Non, mais c'est vrai, hein, tu sais, cette impression-là que le temps
passe... Non, c'est tellement vrai!
Tellement, tu sais, le temps passe vraiment vite! Puis c'est vrai, écoute, ça, c'est hallucinant, puis j'arrête pas de dire « Mais pourquoi? » Pourquoi, tu sais, quand j'avais 12 ans, l'été, ça durait pour toujours, tu sais? Pourquoi maintenant, ça dure 2 semaines? C'est comme, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, tu sais, je vois les jeunes, je travaille avec des jeunes de 25 ans, là, tu sais, qui n'ont pas du tout la même façon de travailler que nous, qui n'ont pas du tout les mêmes exigences quant à leur carrière, qui sont beaucoup moins carriéristes. S'ils sont pas bien, ils s'en vont. Puis je me dis, tu sais, on a tendance à dire, ils veulent pas travailler. Non, c'est pas vrai. J'en connais qui veulent beaucoup travailler, puis qui sont très contents de ce qu'ils font dans la vie. Mais ils veulent travailler différemment, puis ils veulent vivre différemment. Puis, sais-tu quoi? Bravo. Bravo. Je les applaudis. Ils ont raison. Moi, je vais apprendre de ça aussi. Parce que quand on se met à se dire que le temps passe trop vite, ben, il faut que tu commences à aimer ça en tabarouette ce que tu fais, tu sais. Si tu le fais longtemps, puis pendant plusieurs heures par jour. Parce que sinon, ça va commencer à aller mal. C'est ça. Moi, c'est le temps maintenant. Le temps. Qu'est-ce que tu veux faire du temps que tu as? Puis comment tu veux l'utiliser? Puis comment tu fais pour être mieux avec ça?
Qu'est-ce que tu veux faire? C'est peut-être ma dernière question. Marie, qu'est-ce que tu veux faire du temps qui te reste? Peu importe, on va supposer qu'il te reste pas mal longtemps, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Quel héritage souhaiterais-tu léguer? C'est quoi tes plus grands espoirs par rapport à cet avenir-là?
Tu sais, je fais pas de chirurgie, moi, je sauve pas de monde, là. Mais j'espère que j'aurai fait réfléchir les gens sur certaines questions avec le travail que je fais. J'espère que j'aurai appris des choses aux gens. Ça, c'est un héritage que je veux laisser, c'est ça. J'espère que j'aurai donné envie aux gens d'être curieux puis s'intéresser au monde. Ça, j'espère beaucoup transmettre ça. Puis j'espère transmettre ça aux enfants. T'sais, je le vois avec les gars, là, ils sont curieux puis ils ont soif d'apprendre des affaires, tu sais. Puis je leur ai toujours dit, c'est la meilleure affaire que vous pouvez avoir, être généreux puis être curieux. J'espère aussi que les... Comment je dirais ça? Moi, j'aime le monde. J'aime aller vers les gens, tu sais. Puis j'espère que ça, c'est une leçon aussi de j'espère que je vais donner aux gens l'envie d'aller vers les autres, puis de rencontrer des gens, puis de leur poser des questions, puis de se parler, en fait. Parlons-nous. Hey, on vit dans un monde où on se parle tellement pas, tu sais, où ça a causé tellement de problèmes. Il n'y a rien qu'à regarder, tu sais, ce qui s'est passé avec la COVID. On est tellement polarisés en ce moment, là, tu sais, ça me fait capoter. Qu'on soit pas capable d'avoir un dialogue sain les uns envers les autres, qu'on s'emballe vite, tu sais. Alors, j'espère avoir laissé ça, ce désir-là aux gens d'être curieux des autres, puis de... C'est ça, d'apprendre à rester ouvert d'esprit, puis d'accepter les autres dans leurs différences aussi, tu sais. Ça, c'est important. C'est important aussi, puis c'est important comme femme gay aussi, là, tu sais, qui n'a pas eu une vie... j'allais dire normal, puis ça, faut pas que je dise ça, parce que Dieu sait que j'ai une vie normale. Mais tu comprends, tu sais, qui est pas en marge, là, pas du tout. J'ai une vie, tu sais, c'est tellement normal. Mais en faisant partie d'une communauté aussi, comme la communauté LGBT, on apprend aussi ça, tu sais, à vivre, pas en marge de la société, mais tout le temps de façon, les autres ont tout le temps une façon un petit peu différente.
Avec une certaine différence.
Oui, avec une certaine différence, certainement. Fait que ça, cette ouverture-là, j'espère avoir appris ça à certaines personnes, peut-être. Peut-être. Puis moi-même, j'ai encore des affaires à apprendre là-dessus, là. Je te dis pas que je suis la personne la plus ouverte, là, qui accueille tout le monde tout le temps. Je suis pas, vraiment pas, là. Mais, en tout cas, j'espère avoir appris de la curiosité, j'espère laisser ça. C'est la base, tu sais, si on n'est pas curieux, on va pas vers nulle part.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 15e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado, ou écrivez-moi à bonjour@laquarantainebalado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.